bonita.
Macho.
Sus dientes grandes.
Sí, sí.
Te hace ver para que te diga vete.
Ah, on est vers les singes araignées et puis elle monte les dents.
Un dromadaire sur l'épaule, Cyril Desprats et Monsieur T.
Bonjour à tous, merci de prendre avec nous la route, la piste du nord-est du Pérou avec nos invités et les reportages de Stéphane Herzog.
Voilà, on est arrivé au bord du Rio Mayo, qui est déjà de grande taille, au moins 50-60 mètres de largeur. On embarque dans une grande barque. C'est parti. Voilà, on est habillé avec Tom Tirat Bosco en explorateur, avec nos pantalons légers, tout le matériel. Là, c'est la nourriture pour les singes.
Oui, mais oui, ça c'est des wabas.
Wabas. Aquí. Adios.
Sí.
Vamos, gracias. De paso al club. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Reinaldo Rojas López. Soy acá el botero del puerto de Tahuichco, el antiguo.
C'est un des responsables ou bien c'est un des bateliers principaux du petit port de Moyobamba. ¿Cuánto tiempo per Tarangue?
40 minutos.
¿Y cuántos kilómetros?
Tenés un promedio de 6 kilómetros.
6 kilómetros. ¿Vamos al norte o al sur?
Estamos yendo al norte.
Remonto, no. ¿Y ese río es más grande hoy o es pequeño? ¿Cómo es?
Así, ahora está, digamos, para los que somos de acá, está regular. Pero su caudal normal es de 10 metros de profundidad. Ahora estamos al promedio de 6 metros. Así es. Cuando está más bajo es de hasta metro y medio. Estamos en tiempo de invierno.
Donc c'est l'hiver et il y a une profondeur de 16 mètres et c'est son niveau moyen ou moyen supérieur.
Départ sur le Rio Mayo, un petit filament bleu sur une carte du Pérou, un trait à peine visible qui part des montagnes, des Andes, serpente ensuite dans des canyons avant de rejoindre la ville de Moyobamba où nous étions hier, puis celle de Yuramaguas où nous serons demain. Là, le trait bleu a pris un petit peu d'épaisseur, il a changé de nom, le Rio Mayo, il s'appelle maintenant le Rio Huayaga, que nous descendrons jeudi, qui se jette ensuite dans le Rio Marañón. Alors le Rio Marañón, il est un petit peu plus connu que les autres, parce que c'est sur ce fleuve que le conquistador espagnol Aguirre a embarqué avec son expédition, c'était le 26 septembre 1560, à la recherche de l'Eldorado. Si vous avez vu le film de Werner Herzog avec Klaus Kinski, Aguirre ou la colère de Dieu, c'est notamment sur ce Rio Marañón que l'histoire se déroule. Un rio qui ensuite forme avec le Rio Napo, un des plus grands fleuves du monde, bien sûr l'Amazone. Aujourd'hui, on est encore un tout petit peu dans les hauteurs, on est encore dans ce piémont de l'Amazonie, sur le Rio Mayo. À bord du bateau, eh bien, un autre Herzog, c'est Stéphane, et non pas Werner. Il y a Hélène Colongue, cette ethnologue française dont on a fait la connaissance hier, qui a fondé avec son mari péruvien une association Icama Pérou qui s'occupe de reforestation et de protection des singes en voie de disparition. Et puis, il y a aussi à bord un dessinateur genevois qui est notre invité aujourd'hui, Tom Tirabosco, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci de passer cette heure avec nous, ici en Suisse romande. Je parlais tout à l'heure d'Aguirre, du film d'Herzog. Il y a aussi Fitzgeraldo qui se déroule dans cette même région d'Amazonie. Vous, quelles images est-ce que vous aviez de cette région de l'Amazonie péruvienne avant d'y aller ?
Je m'en faisais une image finalement pas très loin de ce que j'y ai trouvé, c'est-à-dire une espèce de paradis, un espace où où la nature est encore extrêmement présente, sauvage et magnifique, luxuriante, bruissante. Et peut-être ce que je n'avais pas imaginé une seconde, c'est l'univers son, l'univers bruit de la forêt. Mmh. Et moi, j'allais à la rencontre des images, en fait, la fascination des images. Et en fait, j'ai été totalement conquis par les sons, les bruits de la forêt et de cet Alto Mayo qui est magnifique.
Et qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un dessinateur, justement, de passer de l'émotion du regard à celui des yeux, à celui des oreilles ?
Eh ben, c'est une nouveauté, c'est un enchantement, véritablement. Et pour moi, je dirais que tout ce périple amazonien, ça aurait été les sons et également les odeurs. Parce qu'il y a une autre dimension très forte en Amazonie. C'est effectivement l'odeur du fleuve qui est extrêmement forte, épaisse comme ça, prégnante, qui les abyssante vraiment ce fleuve, et l'odeur des hommes qui habitent le long de ces fleuves et qui est l'odeur du feu. Et ce mélange de fumée et d'odeur un peu vaseuse de l'Amazone, ça donne l'odeur de l'Amazonie.
Alors la nature, c'est un personnage dans beaucoup de vos livres, dans beaucoup de vos BD. On peut citer La fin du monde en 2008, on peut citer aussi Touche pas à ma forêt en 2007, ou L'œil de la forêt aussi en 2003, où on a non seulement une nature représentée, mais aussi une nature actrice, d'une certaine manière, de vos histoires. On en parlera en seconde partie d'émission avec les BD, avec vos dessins aussi. Vous en avez pris pas mal avec vous. Ça a donné des articles dans Libération, dans Terre et Nature. Ça donnera vraisemblablement un article aussi dans l'Hebdo à paraître prochainement. Vous avez pris avec vous Égide Ney, votre cahier, votre moleskine noire avec vos dessins, vos croquis. On en parlera en seconde partie d'émission. Mais là, puisqu'on y est, on va y rester encore sur ce bateau. On est donc avec Hélène, on est donc avec Stéphane Herzog. Là, vous allez où ?
Donc là, on se rend à Tarangué, qui est le sanctuaire de d'Icama Pérou. C'est-à-dire c'est un territoire, c'est un espace sur lequel ils ont créé une espèce de d'hôpital pour les singes. Et c'est un espace où les singes sont protégés, nourris, soignés et à terme, on souhaite qu'effectivement ils retournent dans la forêt
soit remis
sauvage,
en
fait. Oui,
parce que ce sont des singes orphelins, c'est ça, pour une
part. Singes, donc, c'est tous des singes qui ont été récupérés ou dans des cirques ou sur des marchés. L'association comme ça se rend sur les marchés amazoniens et seul ou parfois avec l'aide de la police récupère ces bébés singes qui sont vendus comme des jouets, les parents de ces animaux étant transformés en viande de brousse, et ils se retrouvent ici à Tarangué où on leur offre les soins et la quiétude auxquels ils ont droit.
On y va tout de suite avec vous.
Voilà, on a débarqué sur la rive droite du fleuve Mayo après un peu plus d'une heure de bateau. Les bateliers sont en train de rentrer à Moyobamba et on a été accueillis par plusieurs personnes qui travaillent sur le site de Tarangué qui vont s'occuper de porter les fruits, de porter l'eau. Pour la première fois depuis le début du voyage, on commence à être entouré par des arbres plus hauts de la forêt préservée, alors qu'en face on a des collines qui sont partiellement déboisées avec des plantations de café, des plantations de maïs. C'est Wawan.
Wawan.
Wawan, voilà, petit singe.
Voilà, ce qu'on va faire, on va aller la présenter au grand singe des nœuds à queue dorée. Hein, on va aller lui montrer.
On avance dans une grande clairière qui est située sur un plateau juste au-dessus du fleuve Mayo. Et on s'approche d'une série de grands enclos avec du treillis. Et là, il y a toute une défilée de pêcheurs et il y a toute une population de singes, je crois des. Donc on suit la patronne.
On les lumineux.
Oh là,
vous venez par ici, voilà, parce que le mâle là, il est pas content, il aime pas, il est gardien du groupe, il aime pas trop qu'on vienne avec des machins. Dans genre micro qui ressemble à des
armes.
Voilà, alors regarde, voilà, tu vas voir ton premier singe des nœuds à queue dorée. Tu vois comme ils sont spectaculaires. Ça, c'est Waimak. Très impressionnant. De toute façon, ils te regardent. Animal très calme. Alors tu vois, il est arrivé ici, il était entièrement paralysé. Le bras, sa queue préhensile, sa jambe droite totalement paralysée. Et là, on le fait suivre un traitement avec un neurologue de Lima. Et il a réussi à récupérer la queue préhensile et le bras droit. Par contre, la jambe est toujours inactive. Mais enfin, ça lui permet, si tu veux, quand même de se déplacer, de se sentir beaucoup plus autonome.
Il a été récupéré où ?
Il a été récupéré toujours pareil, dans cette zone de forêt de nuages. Et ce sont nos amis qui tentent de monter une réserve là-bas, qui nous l'ont amené également. Il était à moitié mourant. Hein, c'était...
C'est dans quelle région ?
C'est à 2 heures d'ici.
Ça s'appelle ?
C'est à côté de Chachapoya, c'est à côté de... Ça s'appelle La Esperanza. Okay. Hein, tu vois, c'est un
bon nom, alors. Ouais. Elle est la jambe antérieure droite, en fait, qui pend. Hein.
Ah, la jambe postérieure. Ouais.
Postérieure.
Ouais.
Alors, quand tu viens de le retrouver, il y a une émotion.
Oui, c'est un animal tellement magnifique. En plus, il est tellement rare, tu n'en verras jamais nulle part. C'est un peu un défi, hein, parce qu'ils sont en même temps tellement fragiles que réussir à le maintenir en vie et à faire en sorte qu'il soit relativement heureux malgré tout, hein, en ayant... Il s'intéresse beaucoup, beaucoup à la nourriture. Il aime beaucoup...
On vient d'entendre... Oh là
oui,
là
oui, ma fillette.
Hein Wawan, on vient d'entendre le petit singe qui est tombé par terre, parce que voilà, ça fait un bruit un peu sourd, vous aurez entendu peut-être. Voilà, il s'accroche maintenant au bras en fait d'Hélène, comme si c'était une liane, et puis il remonte et puis voilà.
J'ai trouvé une maman, je ne la lâche plus. Voilà.
Il nous dit bonjour.
Et c'est vrai que ça me désole toujours de voir des animaux de ce type dans les zoos à Lima, parce qu'on sait parfaitement que ils ont absolument pas les fruits, en particulier les fruits de palme qu'on peut leur donner ici. Ils sont contraint de faire avec une alimentation qui est beaucoup plus réduite. Hein.
Donc il va de soi que les singes te reconnaissent.
Oh, les primates, ils ont une mémoire des visages, mais même ça m'est arrivé de partir pendant une année entière. Les singes, il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'ils te reconnaissent parfaitement, parfaitement. Dès l'instant où tu as eu un contact avec eux un peu intense et un peu sur le long terme, ils te reconnaissent instantanément.
Sí, está molesto. Sus dientes grandes.
Sí, sí.
Te hace ver para que te diga vete.
Ah, donc on est vers les singes araignées et puis elle monte les dents. Voilà, on est avec Blanca. Blanca ou Bianca? Bianca.
Oui.
Comme Bianca. Qui travaille ici et qui fait un peu le bruit des singes. Tu sabes imitar los monos?
Un poquito.
¿Cómo es?
Así.
Esto es el...
El maquisapa.
Maquisapa. Maquisapa. C'est-à-dire singe araignée. ¿Tienen nombres?
Sí, todos tienen un nombre. Todos tienen su nombre. Él es chamec, el macho. Es joven aún y por eso es un poco revoltoso.
Un jeune qui s'appelle Chamek et qui est un peu jeune et révolté. avec Exhal. Si. Exhal. Et alors, on est en train de le suivre dans la forêt. Il a libéré les singe-attelles. Et il a un singe-attelle sur la tête. Il y en a deux autour des bras. Il y en a un qui tient avec une corde. Une autre par une main. Alors voilà, on suit. Hein. On suit avec Exhal, avec Bianca et les attelles dans la forêt. Ils viennent d'être sortis de leurs grands enclos. Et puis ils marchent vite. On a de la peine à suivre. Et alors les singes le suivent. Ils ont l'air tout contents de faire leur sortie du jour. Il vient de pleuvoir dans la forêt. Donc les feuilles sont luisantes. Il y a une belle lumière. Et quand les singes montent sur les arbres, ils les secouent. Et donc on se ramasse la pluie en passant juste derrière eux. Je sais pas s'ils font exprès, mais ça marche bien. Ou alors, à Icamapérou, si vous aimez l'escalade, vous pouvez grimper sur une série d'échelles qui montent à la cime des arbres. C'est au moins à 30 mètres du sol. Et il y a les singes tout mouillés. Il y a des singes tout mouillés qui viennent s'agripper à nous. C'est assez impressionnant parce qu'il place son visage à 5 cm de votre tête et puis il vous regarde bien en face. Il faut, voilà, et il se penche vers toi.
Il te monte dessus,
c'est juste des mots. Il se colle sur toi et puis il vient. Oh, petit poum. Ah, là, il a eu un peu peur parce qu'il y a mon micro qui s'est bloqué. Bon, c'est assez expérimental. Alors, voilà. Il y a Tom Terbosco qui me rejoint. En faisant très attention parce qu'on est sur un endroit où le bois est très fragile. Il a été un petit peu pourri. Et puis, voilà les singes qui reviennent. Alors, c'est une expérience quand même particulière d'avoir un singe qui arrive... devant soi et tout près, voilà, et c'est assez impressionnant quand même. Et puis il s'accroche à nous, il tourne autour de nous, il est curieux, il est excité. Ils sont quand même assez grands, puis ils ont quand même une certaine force. Alors on sait pas trop comment faire, mais on fait rien justement. Puis autour de nous c'est la forêt. Et ça sent, alors ça sent fort quand même. On sent, il a déposé son odeur sur nous. On a une odeur de singe maintenant. Ah, ça pue, ça pue, hein. Ça, il faut dire, ça pue.
Vamos, vamos. Vamos, chame. Ya, cha. Vamos. Washi, cha. Vamos. Ça, vamos.
Il y a pas ça, viens, vamos.
Voilà. Voilà, on a entendu l'appel des singes dans la forêt pour retourner aux cages.
Vamos, yo tiens, vamos.
On était avec une des personnes qui s'occupent des singes. Il les a appelés et les singes vont nous suivre. Les singes araignées vont nous suivre dans la forêt. Voilà quelques bruits de la forêt à Taringué, alors que le soleil s'est couché et que la nuit arrive. On se trouve près des cages où il y a des haras et des perroquets. On va rentrer dans la maison qui se trouve au bord du fleuve Mayo. Avec la nuit s'allument les lucioles, les vers luisants. Toute la prairie qui est ménagée en fait pour l'installation de Taringué est en train de s'illuminer avec des petites lumières comme ça dans la nuit. On nous conseille de pas trop marcher dans la forêt la nuit parce que les serpents sortent et mieux vaut être en terre connue plutôt que d'aller se balader comme ça et de risquer une morsure.
Stéphane Herzog, vous êtes resté longtemps dans cette forêt?
Alors c'est le premier contact, on a passé 2 jours à Tarangué, qui est ce sanctuaire qui est préservé, organisé par Icama Peru.
Et il y a beaucoup de singes?
Alors il y a 3 grands groupes de singes, dont 2 qui sont accueillis par Icama Peru. Il y a d'une part les attelles, c'est des singes noirs avec des très longs membres qui sont très affectueux. Et par ailleurs, il y a des singes laineux, très beaux, avec un pelage auburn. Ça, c'est les singes qui sont maintenus, soignés en fait dans des enclos. Et il y a une autre population de singes, c'est des singes plus petits qui s'appellent le titi des Andes, qui est aussi un singe qui est en danger et qui vit uniquement dans la forêt de nuages, entre 1000 et 2000 mètres. Et ces singes en fait sont en abondance à Tarangué parce que partout ailleurs la forêt disparaît. Donc c'est une espèce d'îlot de verdure et d'îlot de sauvegarde pour ces singes.
Alors là, on va retourner avec vous au bord du fleuve, au bord du Rio Mayo, avec le responsable du bateau qui vous a amené jusque-là.
Soy Reinaldo Rojas López, conocido como el Rey del Mayo, aquí en el puerto de Tabasco, natural, nacido y crecido en este ambiente de nuestro Moyobamba.
Je m'appelle Reinaldo López, plus connu sous le nom du roi du fleuve Mayo. Je suis né sur le fleuve et c'est là que j'ai grandi.
Yo he crecido en una familia muy humilde. He nacido bajo su sostén de mi abuelita, que era como mi madre, hasta hoy en día, cuando mi mamá dio a luz en pleno viaje en una canoa.
Eh bien, moi je viens d'une famille très modeste. J'ai été élevée par ma grand-mère parce que ma mère a accouché dans un canoë. Je suis née dans un canoë sur le fleuve Mayo. Et donc ma mère est tombée malade ensuite. Et c'est ma grand-mère qui m'a élevée, qui m'a enseigné beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, c'est une personne qui reste très importante pour moi.
Alors, est-ce qu'il peut me dire comment est-ce que la région de Moyobamba a changé en fait depuis qu'il la connaît? Qu'est-ce qui a changé?
Los cambios que viene atravesando ya nuestro Moyobamba es más o menos de 15 años. Tenemos ya
y ben, effectivement, c'est depuis 15 ans qu'on voit vraiment un changement total avec la forêt détruite, avec les gens des montagnes qui sont venus. Ils sont venus d'abord en petit groupe et puis ils sont venus maintenant en masse et ils sont venus comme les sauterelles qui s'abattent sur un endroit qui laisse tout détruit.
Alors, quel est son sentiment par rapport à ce changement?
Bueno, pour dire. Para todos los moyobambinos que somos hemos crecido en este ambiente, vemos pues un total desastre porque
pour
hasta
moi,
hoy en día
tous les gens de Moyobamba, c'est un sentiment de catastrophe
reserva,
parce que tout ce que nous avons connu nous comme beauté, tout ça est en train de disparaître, y compris les sources même de l'eau. Il coupe la forêt là où la forêt génère l'eau pour nous, donc c'est un sentiment de catastrophe.
Il m'a raconté avant que quand il était plus jeune, il chassait. Est-ce qu'il peut me parler un peu de cette activité?
Sí. Aquellos tiempos cuando yo tenía de 9 años, yo ya conocía ya la pesca, la cacería, cómo se pescaba aquí en nuestra zona. Se pescaba con raíces tóxicos que se llama el barbasco.
Moi, depuis l'âge de 9 ans, comme la plupart des gens d'ici, j'étais un grand pêcheur et un grand chasseur. Alors pour la pêche, on pêchait de manière traditionnelle avec cette plante qu'on appelle la waka et qui est ce qu'on appelle la nivrée. Et donc ça étourdit le poisson, c'est une sorte de racine toxique qui tue le poisson mais qui reste consommable.
Et alors il m'a dit aussi qu'il a chassé des singes. Quel type de singes il a chassé? Et puis alors c'était pourquoi? Pour les vendre ou bien pour les manger?
Muy bien, acá la respuesta. Yo soy Reinaldo Rojas López, les vuelvo a repetir que he vivido
Moi, pratiquement pendant 10 à 12 ans de ma vie, moi, j'ai vécu exclusivement de la pêche et de la chasse. Et donc, oui, en effet, on chassait, on avait déjà des fusils à l'époque. Et donc, je chassais beaucoup. Alors, le capucin et le singe-hurleur, il y en a beaucoup dans les palmeraies. Et en général, c'était pour consommer la viande. Mais ça m'arrivait de vendre un peu aussi pour aider ma grand-mère à vivre.
Et pour vendre, pour maintenir ma abuelita.
Est-ce qu'aujourd'hui ils chassent encore?
Ya no. Sí, bueno, la cacería ya no, porque ya todo ha cambiado con este que estamos ya este.
Maintenant, j'ai arrêté de chasser. D'abord, il n'y a presque plus rien. Et puis ensuite, maintenant, on est au courant des lois qu'il y a pour la conservation et tout ça. Et même autour de moi, j'ai mes cousins qui continuent à chasser. Et moi, j'essaye vraiment de les convaincre qu'il reste encore un petit peu de beauté. Et je leur dis, essayez de conserver encore le peu de beauté qui reste. Arrêtez de chasser.
Je demande à mes primos qui sont encore dans ça, qu'ils le laissent aux animaux.
Reynaldo López, le roi du Rio Mayo, Stefan Herzog, comment se fait-il quand même que lui ne chasse plus alors que les autres continuent?
Bon, Reynaldo, il dit un petit peu que la chasse, c'était son péché de jeunesse. Aujourd'hui, il a un travail, il a un bateau, il est plus obligé de chasser. Et puis, il explique lui-même qu'il est attaché à cette forêt. Alors, on ne sait pas si c'est de la langue de bois ou non. Reste que, selon Hélène Colongue, la plupart des gens de la région de Moyobamba qui chassent ne le font pas forcément pour des motifs absolument économiques, mais parce que voilà, quand on a un singe à portée de fusil, on tire, parce que comme elle le dit, ça peut remplacer le poulet du midi. Donc il n'y a pas forcément une nécessité économique à la chasse.
Donc c'est une nécessité ou une réalité plutôt culturelle qu'elle essaye de faire abandonner aux populations.
Absolument, et c'est là tout leur travail d'expliquer et de dire qu'un singe en vie, ça peut être en fait un atout en fait pour le Pérou, et que tuer simplement un singe juste pour le repas de midi, c'est absurde autant au niveau économique qu'au niveau culturel et du respect de leur propre pays. Mais c'est un message qui est difficile à faire passer.
C'était le micro était difficile à ouvrir. Voilà, on était donc dans ce sanctuaire de Tarengué en pleine Amazonie péruvienne avec Stéphane Herzog, avec également Tom Tirabosco qui nous a rejoint aujourd'hui. Tom Tirabosco, dessinateur genevois, auteur de plusieurs BD, La fin du monde avec Pierre Vazem, publié chez Futuropolis en 2008, Léo et Léa, Touche pas à ma forêt, paru chez Casterman en 2007, et puis un titre dont on a beaucoup parlé en 2003 quand il est sorti, et ensuite L'œil de la forêt, paru également chez Casterman. Vous avez donc accompagné Tom Tirabosco, vous avez donc accompagné Stéphane Herzog dans cette région, dans ce sanctuaire de Tarengue. Vous étiez à côté de lui dans les arts, vous étiez à côté de lui aussi quand vous avez discuté avec Hélène Colong. Une réaction peut-être ? J'ai vu que vous étiez très concentré avec le casque sur les oreilles au moment où vous étiez dans les...
de réentendre ces sons. Moi, je ne les avais pas entendus, et particulièrement là, ces cris, ces sortes de cris de singes qui sont vraiment très, très, très étranges, en fait. Je les avais oubliés. Là, ça remonte d'un coup, donc j'y suis.
Qu'est-ce qui manquait dans ce que vous avez entendu, ouais, par rapport à ce que vous avez vécu?
Effectivement, il manque tout le reste quand on est dans ces lieux incroyables. La lumière, comme je vous ai dit avant, les odeurs et tout ce qu'on y a mangé aussi, parce que c'est un endroit extrêmement généreux en termes de nourriture, donc tous les fruits de la passion, papaye, donc c'est des orgies de jus frais qu'on nous sert, enfin que l'association nous sert, parce que je voulais quand même préciser qu'effectivement ils reçoivent des gens là-bas. On peut faire de l'écotourisme avec Ikama Pérou, on peut aussi devenir éco-volontaire pour eux. Et voilà, donc on a été extrêmement bien reçus, et ça a été, pour moi, ça a été un véritable enchantement. Et je le dis là comme ça parce que c'est un rêve d'enfant qui se réalisait de pouvoir être dans cette nature, en plus au sommet des arbres avec ces singes qui nous grimpent dessus. C'était totalement... C'était étonnant, en fait. Ces présences, ces animaux qui arrivent et vous grimpent dessus. Et vous n'avez absolument pas la possibilité de les retenir ou de les emprisonner avec les bras, parce que là, ils se mettent à crier, à vous mordre. Donc, il faut juste, comme disait Stéphane, être là, à attendre et les regarder. Et ils communiquent, ils vous parlent. Véritablement, ils tentent de rentrer en contact avec nous, avec une espèce de présence et des regards très, très profonds. Et c'est vraiment une expérience particulière.
C'était parfois un peu inquiétant.
Je dirais pas inquiétant. Moi, en tout cas, au contact de cette nature et des singes, je me suis jamais senti inquiété. J'avais peut-être plus de frayeur à Lima et plus d'appréhension dans une ville comme Lima que tout en haut des arbres avec ces singes qui effectivement ont des dents assez impressionnantes. Mais on a compris qu'ils venaient comme ça. On sent très vite qu'ils sont pas belliqueux. Donc il y a pas une volonté de leur part de créer comme ça de nous mettre en danger.
Vous parliez d'un rêve d'enfant qui a été réalisé lors de ce voyage, Tom Tirabosco. Vous n'aviez jamais été dans un endroit comme celui-là. C'était la première fois, c'est une première expérience avec cette nature.
Ça a été mon premier voyage en Amérique du Sud et ça a été mon premier contact avec la forêt tropicale d'Amérique du Sud, amazonienne. J'avais vu des singes, j'avais été en Afrique, en Tanzanie, où là j'avais été dans des forêts aussi subtropicales, mais la vraie forêt tropicale, je ne l'avais jamais foulée, en fait. Et je me réjouissais vraiment de cette expérience. Et moi, j'ai appris et aimé le dessin à travers l'observation de livres d'images. Et ces livres d'images me racontaient la forêt, entre autres la forêt d'Amérique du Sud. Et les animaux que j'ai vus dans cette forêt, je les connaissais par cœur avant d'y arriver, avant d'aller sur place les observer. J'avais une espèce de connaissance livresque de ce lieu, de ces animaux.
Livresque et intime, j'allais dire aussi, parce que la forêt, elle est présente dans plusieurs de vos BD. Alors, c'est pas une forêt, quand on lit par exemple, justement, L'œil de la forêt, c'est pas une forêt amazonienne, mais on est quand même dans quelque chose qui ressemble à un enchevêtrement, à quelque chose de...
Moi, je dis souvent, je suis pas le dessinateur des hélicoptères en contre-plongée entre trois gratte-ciels à New York. Je suis vraiment le dessinateur plutôt des racines et des arbres. Donc c'est vrai que étonnamment, peut-être pas, c'est pas étonnant puisque dans mon nom le mot forêt il figure en italien, mais c'est vrai que la place de la forêt, la place des arbres est très importante dans tout mon travail de dessin. Alors je ne me l'explique pas, si ce n'est que j'ai passé beaucoup de temps enfant à observer la nature et à m'ennuyer dans cette nature. Et c'est, je pense, à travers cet ennui au contact de la nature que j'ai développé peut-être cette sensibilité aux animaux et aux arbres.
Vous vous êtes ennuyé en Amazonie péruvienne ?
Non, pas une seconde.
Même si parfois les déplacements sont lents, même si on est à un autre rythme ?
Non, mais là, c'était un voyage extrêmement dense, court et dense. En fait, on n'a pas eu le temps de vraiment... ça n'a pas été un voyage de... où on part sur la route et puis on... Non, c'était un voyage très organisé. Chaque jour, on savait où on devait se rendre et il n'y a pas eu de... Malheureusement, hein, parce que c'est une des belles choses, je dirais, du voyage, c'est cette notion du temps qui tout d'un coup se détend, se distend et permet une rêverie.
Vous avez eu la gentillesse de nous prêter certains de vos dessins que vous avez réalisés lors de ce voyage. On les a mis sur notre site, sur la galerie photo, avec les photos de Stéphane Herzog également, dromadaire.rsr.ch. Si vous souhaitez regarder quelques-uns des dessins réalisés par Tom Tirabosco pendant cet entretien, allez-y sur notre site, la galerie photo. Comment est-ce que vous avez travaillé sur place? Comment ça se passe? Parce que vous avez amené avec vous le fruit de votre travail, ouais. C'est paru dans différents journaux, c'est paru dans Libération, dans Terre et Nature. Vous avez également apporté votre carnet de croquis où on voit à la fois des scènes de la vie humaine et puis en même temps des dessins extrêmement précis, par exemple de têtes de singes laineux ou d'oiseaux. Comment est-ce que vous travaillez sur place ?
Alors j'ai pas de méthode dans le sens où je suis pas du tout quelqu'un qui a l'habitude, disons, de dessiner énormément en voyage. Donc j'ai un peu perdu cette habitude. Donc pour moi ça a été aussi une expérience rafraîchissante à ce niveau. Quand je dessine la nature, c'est vrai que j'aime bien. Dans mes bandes dessinées, je la romantise, la nature, elle est fantasmée, elle est exagérée, elle est lyrique, comme ça. Quand je fais un travail de croquis in vivo sur les lieux même, c'est vrai que c'est différent l'approche. C'est une approche plus de dessin d'observation, donc de dessin parfois aussi un peu comme un naturaliste. Pourrait dessiner certaines espèces d'animaux qu'il observe. Donc j'aime aussi cet autre aspect du dessin, qui est un dessin plus qui est moins sophistiqué, qui est plus fragile aussi, plus immédiat et parfois aussi plus maladroit.
Vous avez une approche documentée aussi, parce que là on voit le dessin du Cabreia pygmaea, par exemple, qui est un petit singe avec les yeux.
Voilà, celui-là, on l'a vu ouais. Par exemple, sur un marché à Yurimaguas.
Vivant ?
On l'a vu vivant, oui. Ils les vendent vraiment comme des petits singes de compagnie à garder sur l'épaule.
Des pluches vivantes ?
Voilà, exactement, mais qui en général ne survivent pas très longtemps. Ça c'est des animaux que j'avais observés. Et puis après, quand on est retourné dans la cabane du guide, j'ai vu qu'il y avait des posters où on nous présentait ces animaux. Donc je les ai redessinés sur la base de documents, en fait.
Avec des légendes, c'est des noms que vous trouvez dans les dictionnaires, que les gens vous disent aussi.
Comment... Oui, tout à fait. Ouais. Je vais les chercher dans les livres. Ouais.
Et ce travail, ensuite, vous en faites des histoires. Par exemple, ce qui est sorti dans Libération, c'était en février 2009, où vous racontez en quelques cases, ça va vite, hein, le récit de votre voyage. Comment ça se passe, ce travail-là ?
Ça, c'est un reportage en bande dessinée. Donc voilà, on raconte de manière assez factuelle, sans y mettre trop de il n'y a pas de fiction, c'est vraiment, on raconte les moments, les éléments du voyage, en essayant d'être le plus proche de ce qui s'est passé. C'est un travail beaucoup plus, comme je disais, plus... Moi qui ai une technique de dessin assez sophistiquée, entre guillemets, là c'est pour moi un travail de dessin plus simple, plus immédiat et Et voilà qui doit être. Mais c'est un travail qui se fait dans un deuxième temps, c'est-à-dire que c'est à partir de la somme de documents, de photos et de croquis réalisés sur place que je vais après construire ce petit récit, ce petit reportage en bande dessinée.
Qui a une visée, peut-être pas pédagogique, mais en tout cas de sensibilisation au phénomène de la sauvegarde des singes.
Puisque ça parlait de ça, effectivement, non, mais je crois que j'ai essayé d'être j'ai pas essayé d'être trop dans une interprétation de ce que j'ai pu vivre. J'ai essayé d'être sincère avec ce qui s'est passé et de le relater simplement. C'est-à-dire que peut-être que les messages qui peuvent en sortir sont ce que j'ai pu moi. C'est le témoignage de ce que d'autres personnes ont pu me raconter. Donc là, en l'occurrence, de Hélène Colomb qui dit, voilà, pour moi, c'est important de sauver ces animaux parce que, voilà, si on ne les sauve pas, c'est un peu de la beauté du monde qui disparaît. Mmh.
Témoignage aussi d'Albertine, dont le nom ne veut pas dire d'où elle vient, puisqu'elle est elle-même indienne, qu'on entendra demain dans le carnet de route de Stéphane Herzog. Vous parlez de ce voyage, des moments forts. Quel a été pour vous le moment le plus fort de tout ce voyage?
Je crois que ça a vraiment été cette rencontre avec les singes au sommet des arbres, en pleine forêt, dans la canopée, attendre et se voir tout d'un coup submergé de ces agneaux, parce qu'ils arrivent à plusieurs et on se retrouve avec deux, trois singes qui vous grimpent dessus et qui vous observent et qui vous lèchent un peu les lobes d'oreilles. Et puis qui
sont pas très bons, paraît-il.
Mais j'ai moins le souvenir. J'ai pas ce souvenir qu'ils étaient particulièrement puants comme ça. Mais moi, j'ai le souvenir qu'ils étaient surtout extrêmement expressifs et bruyants.
On parlera de cette nature qui vous inspire, nature que vous racontez, que vous observez, que vous dessinez, qui est également actrice d'un certain nombre de vos œuvres, de vos BD, Tom Tirabosco. Ce sera après une chanteuse péruvienne, Tania Libertad. Ça vous dit quelque chose, vous connaissez?
Absolument pas.
Alors on découvre ensemble. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, papá. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, papá. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, papá. A ver, va. Vengo desde muy lejos que yo vengo. Traigo la pócima santa que yo vengo. Cosquillita en el alma y el corazón. Hay que vivirlo con amor. Por eso me llaman el curandero. Y ya llegó la hora de la demostración. Y ya llegó. Oye, ¿cómo dice? ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. Va, viro, va. Ay, va, viro, va. Va, viro, va, viro. China, pisco y tu toma. Una caricia en el alma y el corazón. Para vivirla con amor. Por eso me llaman el curandero. Y ya llegó la hora de la demostración. Y ya llegó la. Mira cómo dice. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va. ¿Qué le pasa a usted que le pica a usted? Anda mareado ese loco, va. ¿Qué Tania Libertad, Anda Maredo.
Infotrafic,
et on nous annonce
RSR.
Une information pour les automobilistes. Soyez prudents si vous circulez sur l'autoroute Lausanne-Vevey. Une barre de métal est signalée sur la chaussée dans le tunnel de Belmont en direction de Vevey. Voilà, retour à Genève en direct avec Tom Tirabosco pour parler de votre voyage en Amazonie péruvienne. Alors, je le disais tout à l'heure, vous l'avez vous-même souligné, la nature dans votre travail, elle vous inspire, vous l'observez, vous la dessinez et en même temps, elle est présente comme acteur. On a dans certains de vos BD des chats qui parlent, par exemple. C'est une nature étrange, même parfois un petit peu menaçante. C'est comme ça que vous la vivez aussi, cette nature. Elle est fantastique, mais un petit peu effrayante quand même.
Je fais vraiment la distinction entre le travail de fiction, le travail de l'imaginaire et ma sensibilité pour tout ce qui est de l'ordre de l'environnement. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours ce rapport étroit avec les animaux, la nature. Je me souviens, adolescent, j'organisais des camps VVF.
Vous avez dessiné pour
j'ai crapahuté dans les montagnes avec mes guides, des oiseaux, etc. Mais c'est vrai que quand je me mets à imaginer des récits ou à illustrer les récits des autres, cette nature, elle devient facilement, effectivement, inquiétante, fantastique, romantique, ouais.
On a l'impression d'être dans un rêve d'enfant, parfois, un tout petit peu. Il y a dans certaines de vos cases et dans certaines de vos histoires, on a l'impression d'être englouti. Comment on peut en rêver quand on est enfant ?
Ça, des réminiscences de certains dessins animés d'enfants. Ouais.
De vos propres rêves aussi.
Mais je crois que c'est la nature, elle est souvent un peu une espèce de miroir et des personnages dans mes bouquins. Donc elle est un réceptacle d'angoisse, de peur, d'agressivité, etc. Donc, mais je pense qu'il y a aussi des moments où elle est tout simplement aussi belle, lumineuse, et voilà. Mmh.
En quoi est-ce que le voyage que vous avez fait, qu'on va découvrir tout au long de cette semaine, parce que là on était dans les arbres, on était dans la partie, j'allais dire, claire de ce voyage, on va être notamment vendredi dans la partie beaucoup plus obscure, où vous êtes dans une espèce de marécage, avec, là on retrouve quasi des terreurs enfantines, avec des mygales qui vous fixent dans les yeux. Non, c'est vrai.
Ouais. Non, tout à fait, on les a vus.
Vous les avez vus. En quoi est-ce que ça va vous inspirer pour le travail de fiction, ce que vous avez vécu sur place?
Oh, ça, c'est difficile à dire. Je pense que tout ça, c'était déjà en moi, en gestation, c'était là. Et je pense que ça va nourrir mon travail, mais je ne peux pas vous dire directement de quelle manière. Je pense que ça, dans un premier temps, ça enrichit le regard que je peux porter sur le monde et la complexité de ce monde, la complexité des problèmes auxquels font face certains pays. Et je dirais que c'est plus là où moi, j'en retire quelque chose. C'est-à-dire que ça me permet de poser un regard un tout petit peu plus nuancé sur ce monde.
Dans quel sens ?
Justement, par rapport à tous ces problèmes de déforestation, par ces problèmes environnementaux, où on se rend compte que la problématique est extrêmement complexe et c'est pas que effectivement les grands trusts du bois qui détruisent, mais c'est aussi une survie au jour le jour pour des populations qui ont du mal à s'en sortir.
Quand on lit des articles, des portraits qui vous sont consacrés dans la presse suisse, on vous présente souvent de temps en temps, en tout cas comme un idéaliste, comme quelqu'un qui veut sauver la planète. Vous avez l'impression qu'un voyage comme celui-là...
Non, mais j'espère que je conserve cette image, parce que je pense que si on n'est plus un idéaliste qui a envie de sauver la planète, je vois pas ce qu'on peut être d'autre aujourd'hui, je dirais. Le peu qui nous reste, on doit absolument le conserver, mais c'est vrai que les problèmes sont, comme je l'ai dit, multiples, complexes, entremêlés, et il faut savoir... Voilà, et c'est des chantiers immenses, mais je pense qu'on doit être là pour... moi, je dirais que mon premier rôle, dans un premier temps, c'est d'avoir envie de m'émerveiller de cette nature et de la transmettre comme un émerveillement aux autres.
Merci beaucoup, Tom Tirabosco, d'avoir été cette heure avec nous.
Merci à vous.
On va dire qu'on retrouve vos dessins, notamment sur notre site internet, vous en avez mis quelques-uns, et qu'on va pouvoir suivre une exposition, ça s'appelle « L'adieu au canard ». Ce sera Galerie Papier Gras, ça commence
jeudi.
Jeudi, donc Galerie Papier Gras à Genève. Je vous remercie. Je vais vous demander de prendre votre casque, parce que là, il nous reste 3 minutes, et nous sommes, ou en tout cas, nous devrions être en ligne avec quelqu'un qui est en train de réaliser des carnets de route pour nous, quelque part dans le monde. C'est en Suède, à Stockholm, où nous sommes en direct avec Mélanie Croubalion. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Où est-ce que vous vous trouvez précisément, Mélanie ?
Je dis « hey, hey » en suédois, comme on dit bonjour ici. Ah voilà. Oui. Je suis dans une crèche mm-hmm. qui s'appelle Mourn. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on est dans la crèche avec Peter Olofsson, qui est un papa.
Oui.
Un papa qui est en congé parental. On est avec lui et sa fille Tira. Mais là, je ne peux pas avancer plus loin avec lui parce qu'il faut enlever ses chaussures à l'entrée ici.
Vous avez l'air essoufflé. Vous êtes en train de courir oui. avec les enfants ou bien ?
On vient d'arriver, en fait, à la crèche. On a traversé un parc enneigé pour venir chercher... Ah, il est en train de me mettre, Peter, là, maintenant, des genres de petites choses en plastique sur les chaussures pour ne pas salir le sol.
Mm-hmm.
Et on va aller chercher le plus grand, Morten, qui est ici à la crèche. On l'a amené ce matin, puis là, on vient le chercher, c'est 15h. On est avec la petite fille qui a 16 mois, qui a passé la journée avec Peter, avec son papa, comme elle le fait d'ailleurs depuis 6 mois, puisqu'il est en congé paternel depuis 6 mois. Il lui reste encore 2 mois de congé paternel.
Vous l'avez suivi toute la journée, alors, ce papa
Oui, on toute la journée. On les appelle ici des papas latte, mm-hmm. parce que ce sont des papas qui sont en congé parental, qui se promènent en général avec leurs enfants la journée, qui s'arrêtent dans les cafés en Suède et qui boivent du café latte,
ah,
du
d'accord.
café au lait.
C'est pas parce qu'ils donnent le sein, quand même.
Non, pas du tout. En plus, on a découvert que Peter n'aime pas un papa latte, mais un papa cappuccino, parce qu'il n'aime pas le café latte.
D'accord. Et donc, vous allez le suivre toute cet après-midi jusqu'à l'apéro, il se retrouve avec les autres papas latte ou bien comment ça se passe ?
Non, en général, il se retrouve plutôt l'après-midi autour d'un café. Là, il vient d'aller chercher Morten, qui est maintenant dans ses bras, qui a fait un beau dessin, il me le montre. Et puis, il va rentrer à la maison, vider la machine à laver qu'il a mise en route tout à l'heure, finir le pain qu'il a préparé dans la machine, dans la pétrisseuse,
mm-hmm.
et puis préparer à manger pour ce soir.
Et la maman, elle est où ?
Alors, maman, là, elle est en voyage pour le travail. Elle est au Vietnam.
Ah oui.
Mais même quand elle est à la maison, c'est lui qui fait à manger. Et puis, quand elle arrive, ben, elle se met à table, elle mange. Puis après, elle joue un peu avec les enfants.
Très bien, merci beaucoup. Vous saluez bien le papa latte de notre part à nous, Tom Tirabosco et moi-même. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne suite de reportage, car on aura l'occasion d'entendre tout bientôt. Voilà, merci aujourd'hui. Bonne journée. À tout bientôt, Mélanie. Merci aujourd'hui à Philippe Messerli, à Antonin Bord en régie, à Stéphanie Coudray, notre assistante de production, à Nathalie Schoenberg qui a choisi les musiques, à Dany Sulam, responsable pour notre site internet dromadaire.rsr.ch. Merci à Monsieur T qui a réalisé les carnets de route. Après les informations, c'est Histoire vivante de Jean Leclerc, Stéphane Herzog, Cyril Desprats. Excellent après-midi. On se retrouve bien sûr demain. Il va être 9h du matin à Taringuée, au Pérou, 15h sur la première.